Donc pour le PV du conseil de la dernière fois. Vous avez des remarques à faire, M. Bon ?
Oui.
Merci, bonsoir à toutes et à tous et bonne rentrée. La première remarque ne concerne pas le PV directement, mais je me suis étonné pourquoi le compte rendu du conseil municipal du 30 juin n'était pas en ligne sur le site Ville-Montferrier. Il n'y a que l'audio, toujours en trois parties, et je pensais qu'il était obligatoire que ce compte rendu se. Compte rendu soit porté à la connaissance de la population et donc sur le site de la mairie, puisqu'il y a la même.
Vous avez l'audio, M. Bord, c'est ce qu'on a dit déjà la dernière fois. Il y a l'audio, donc les administrés peuvent écouter la totalité, l'intégralité du conseil municipal. À partir de là, il est utile de faire un compte rendu succinct du conseil municipal qui est affiché à la mairie. Comme il se doit avec l'ordre du jour et la convocation. À partir du moment où vous avez la possibilité d'écouter tout le conseil municipal en audio.
Deuxième remarque. Donc, le compte rendu audio sur le site Ville de Montferrier et le procès verbal que vous nous soumettez, que vous avez fait parvenir, ce soir sont différents. Et notamment, dans celui que vous nous soumettrez à signature, les interventions orales n'ont pas été retranscrites, aucune d'ailleurs. Donc, je m'en suis étonné puisque jusqu'à présent cela a été fait.
Elles y sont là, monsieur Bord, elles y sont. Vous verrez quand vous signerez, elles y sont. Toutes les questions orales ici.
Bien, alors s'il y a toutes les.
Donc nous pouvons peut-être passer au vote alors. Donc qui est contre l'approbation du PV du conseil municipal du 30 juin ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Nous avons 10 points à voir ce soir. Le premier point, c'est la modification du lieu de réunion du conseil municipal. Donc, conformément à l'article du CGCT, le conseil municipal se réunit.
J'ai juste une question préalable par rapport à l'autre.
Papier.
Il n'y a que ceux qui l'ont eu en version papier qui l'ont.
Donc, il y a eu un bug au niveau du
système. Est-ce qu'on pourrait avoir avant que ce point passe à l'ordre du jour une copie de
peut-être que je peux faire passer la note de synthèse. Personne ne l'a eu de tous ceux qui l'ont eu en numérique. Personne n'a eu le.
Thank you.
monsieur Bord, en papier, vous ?
Moi, je l'ai.
Ah, d'accord. Donc, vous l'avez. Donc, vous l'avez, du coup, là.
C'est l'idée.
D'accord. Vous pouvez regarder la vie, c'est l'idée. Aujourd'hui, et comme nous sommes en plus en période sanitaire avec des contraintes exigées, du coup, je trouve qu'il est plus judicieux de rester et de faire le conseil dans la salle du Dévézou qu'à la mairie, parce que de toute façon, dans la salle actuelle, enfin, la salle qui était la salle du conseil, on ne tiendrait pas à 27, hein, il n'y a pas assez de place, et encore moins pour pouvoir accueillir du public. Donc je pense que cette salle se prête parfaitement bien aux conseils municipaux. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons délibérer sur cette modification du lieu du conseil. Vous avez des questions particulières ou... Non ? Oui ?
Oui. Concernant donc ce point, si j'ai compris, la mairie ne sera plus jamais le lieu du conseil municipal.
Ben à 27, ça, c'est assez difficile, surtout si on veut recevoir aussi du public.
Alors, au Dévézou, je dis oui, pourquoi pas. Mais je pensais qu'il faudrait peut-être revoir la disposition des conseillers, par exemple à Rectarmer. Sauf, bien sûr, quand il y a un diaporama, comme lors de présentation du DOM, puisque je vais en face. Parce que lorsque l'on présente un U comme cela, les conseillers d'opposition se font face, certes, mais ils sont éloignés, on peut dire, mis sur le côté, sur les bas-côtés. C'est un peu gênant pour eux. J'ajouterai, et pour cette même raison, et à cause de la salle qui est grande et au volume conséquent, je demanderai que nous disposions également de micros statiques. Afin de ne pas faire l'annonce, il demande le micro, ou qu'il n'arrive pas, certains se prononcent sans avoir le micro. Alors c'est gênant, peut-être pas en salle ici, mais vous savez que c'est gênant pour l'audio, puisque c'est seulement l'audio qui va rester pour la population. Donc on est obligé d'avoir un micro de façon à être entendu correctement. Sans micro, l'audio ne passe pas. Donc, est-ce que ma question, c'est, outre la disposition, lorsqu'il n'y a pas de diaporama, est-ce qu'il est possible d'avoir un micro statique comme vous l'avez, puisque vous en avez deux, est-ce qu'on pourra en avoir au moins un ici et un en face ?
C'est ce qu'on va faire. On va mettre un micro statique devant chaque groupe, et comme ça, vous pourrez avoir un micro fixe devant vous.
Voilà. Merci.
Déjà là, on peut en faire passer un. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre le déplacement ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est la demande de subvention. Donc cette demande de subvention concerne la construction de paddles sur la commune. Donc là, vous savez que nous avons obtenu du département une subvention concernant cette construction de paddles. Et aujourd'hui, nous faisons cette demande pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Et encore aujourd'hui, nous avons encore une petite coquille sur l'ordre, la délibération, puisqu'il est marqué un terrain de paddle pour 50 000 euros. Or, vous savez que nous avons demandé deux terrains de paddle, donc du coup pour 100 000 euros. Donc, je vous demande l'autorisation de corriger cette coquille, de mettre deux terrains de paddle pour 100 000 euros, ce qui nous permettra d'être en règle avec la subvention du département. Qui est contre cette correction ?
C'est juste pour notre compréhension, mais cette question a fait l'objet d'une remarque en conseil municipal le 30 juin dernier. Et là, l'information subvention aide aux communes, programme patrimoine et voirie, fonds d'aide investissement aux communes, une subvention de 80 000 euros avait été demandée pour l'aide à la construction d'un terrain paddle. Donc on est à 50, on est à 100, on est à 80.
Non. C'est la subvention qui nous a été accordée est une subvention de 80 000 euros. On n'a jamais 100%. Quand on demande une subvention, on n'a jamais 100% de ce qu'on demande. Donc, on a demandé 100 000 euros, il nous a été accordé 80 000 euros pour faire la construction du terrain. On a toujours 80%, on n'a jamais 100%. 80 ou moins, hein, ou 60 ou 50, enfin un maximum de 80. Donc, les 80 000 euros, c'est la subvention qui nous a été accordée.
Et là, les 50 000 euros,
ben, les 50 000, c'est le prix d'un terrain de paddle. Deux terrains de paddle, 100 000. Conclusion, pour construire deux terrains de paddle, il faut qu'on demande, ça va nous coûter 100 000, donc nous demandons la subvention la plus élevée au département, et le département nous a accordé 80 000 sur les 100 000. Voilà. C'est 100 000, deux fois 50 000 de terrains de paddle. Du coup, le département nous a octroyé une subvention de 80 000 sur les 100 000.
On en a parlé la dernière fois en commission des travaux, et justement, la personne, je crois que c'est le surveillant, nous dit qu'il n'y avait plus qu'un terrain de paddle.
Aujourd'hui, nous avons fait une demande, en juin, nous avons fait une demande de deux terrains.
Oui.
Deux terrains de paddle pour 100 000 euros. Le département nous a octroyé 80 000 euros. Oui. Aujourd'hui, nous commençons par un terrain de paddle. Aujourd'hui, là, demain, au mois de décembre.
Très simplement. Deux terrains de paddle qui sont programmés, ça va être fait en deux tranches pour une raison simple, c'est que déjà on va essayer ce que ça donne avec un, que peut-être il peut y avoir des nuisances sonores qui peuvent gêner déjà ceux qui jouent au tennis et éventuellement les voisins proches, même si on a regardé, il n'y a pas beaucoup de voisins proches, et que ça me paraît plus judicieux d'essayer avec un, quitte à faire la deuxième tranche après, que partir avec deux et s'apercevoir que le deuxième est problématique et qu'il faille le démonter, qu'on perde 50 000 euros, c'est plutôt ça l'idée. Quoi. Après, il n'y a pas de loup, on ne peut pas discuter 10 ans sur des trucs comme ça, je veux dire. Il n'y a pas de loup, il y a deux terrains de paddle, il y a des deniers qui ont été faits. À un moment donné, il faut qu'on avance, parce que sinon, on va passer un temps fou. Je ne vois pas où est le problème.
Non, le problème, c'est pas le problème. C'est simplement que la première fois, c'est deux terrains, la dernière fois, on a discuté, vous avez dit qu'il n'y en a qu'un.
Un plus 100. On commence un plus 100 pour les raisons.
Ah voilà, mais aujourd'hui, vous dites un plus 1.
Ça fait deux.
C'est pas comme ça la dernière fois, c'était qu'un.
Mais ça change pas, en fait.
J'avais 200, quoi.
Donc, nous passons donc au vote pour cette demande de subvention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Monsieur Bord et Mme Bollin. Adopté la majorité. Troisième point, la convention GRDF. Monsieur
Brégès. Oui, donc cette convention GRDF, c'est une convention entre du coup la commune de Montferrier-sur-Lesse et Gaz Réseau de France. Tout simplement, c'est pour nous permettre, nous, collectivités, d'avoir accès aux données cartographiques des réseaux GRDF sur la commune, alors de façon dématérialisée, et bien évidemment pour ne plus avoir des cartes papier comme nous pouvons l'avoir actuellement, qui ne sont pas forcément remises à jour. Donc ces cartes dématérialisées, c'est pour avoir donc les tracés des réseaux de distribution de gaz sur la commune, la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou l'année de pose des canalisations. Enfin, vous avez aussi la mention des robinets de réseau qui sont utilisés à l'exploitation et la position des postes de livraison et de distribution publique. Donc c'est une convention cadre que passe la commune de Montferrier avec GRDF pour avoir l'accès de façon dématérialisée à ces éléments cartographiques. Je vous remercie.
passer au vote. Donc, qui est contre la convention, l'adoption de la convention, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Nous passons au quatrième point. Pardon.
Juste un point d'information. La commune, est-ce qu'elle se dote d'un SIG ou est-ce que vous avez déjà un SIG en place?
On a un SIG par la métropole.
D'accord. Donc, vous passez par les services de la métropole et c'est eux qui instruisent. Okay.
Tout à fait.
C'est juste le complément d'information que je veux.
Un système d'information du droit.
Qui est très complet et qui nous aide beaucoup.
Oui.
Parce que quand on cherche à savoir où se situent les bornes à incendie dans le village, si elles sont efficientes ou pas, on va sur le SIG et c'est un très très bel outil que nous a fourni la métropole. Donc on a des renseignements multiples et variés.
Et juste aussi en complément d'information,
donc vous aurez les réseaux de gaz, mais vous avez aussi les autres réseaux aujourd'hui qui sont en place sur...
Ils sont en train de l'alimenter.
D'accord.
Donc au fur et à mesure, ils sont partis de tout ce qui était urbanisme d'abord, cadastre, etc. Et puis au fur et à mesure, ils alimentent. Donc là, on vient d'avoir accès aux bornes à incendie, c'est pour ça que j'en parle. Alors, quatrième point, contrat avec le centre de gestion.
Oui, alors tout simplement, la commune qui est affiliée au centre de gestion de l'Hérault a aujourd'hui un marché qui arrive à échéance au 31 décembre 2021 sur la couverture assurance de la collectivité pour les personnels. En gros, quand il y a un personnel qui est absent, la collectivité se fait rembourser la rémunération, etc. Ce marché qui a été porté par le centre de gestion il y a 4 ans arrive à échéance et là c'est tout simplement l'autorisation de signer la convention et de rentrer en gros dans un groupement avec les autres collectivités pour permettre au centre de gestion de lancer une consultation. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on adhérera par la suite au marché qui sera attribué et notifié à une entreprise. En l'occurrence, une entreprise, l'assureur aujourd'hui, c'est grâce à moi. Donc ce marché est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Et là, c'est de donner l'autorisation au centre de gestion de lancer une consultation pour nous permettre d'adhérer ou pas au futur marché.
Vous avez des questions? Non. On va passer au vote. Donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point 5, donc le point poste ATSEM, 6e classe à l'école maternelle. Vous avez eu le temps de regarder? Donc, comme vous le savez, on a une 6e classe qui a été créée à l'école maternelle cette année, depuis le 1er septembre. Et donc, au niveau de cette classe, il était utile de mettre une 6e ATSEM, puisque dans les 5 autres classes de maternelle, il y a déjà une ATSEM qui accompagne le professeur des écoles. Donc, nous avons fait nous avons demandé en interne, parce que nous ne voulions pas de modification d'effectifs, nous avons demandé en interne quelles étaient les personnes qui étaient intéressées par ce poste. Nous avons eu 3 candidatures. Ensuite, nous avons fait un choix avec l'adjoint au scolaire, monsieur le DGS et moi-même, et nous avons bien entendu fait participer l'ancien directeur de l'école maternelle et la nouvelle directrice de l'école maternelle pour pouvoir affiner ce choix. Et notre choix s'est donc porté sur Emmanuel Vidal, qui travaillait déjà au sein de notre école et qui était sur un poste à 80%, et qui là est passé sur un poste à temps complet, 100% ATSEM de la 6e classe de maternelle. Voilà, donc d'où l'augmentation, la modification du tableau des effectifs avec Madame Vidal qui passe ATSEM à l'école maternelle.
Juste comme je découvre le sujet, Madame Vidal est sur votre poste.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui la remplace?
Qui
le travail qu'elle faisait,
oui,
il
a été réparti sur d'autres personnes.
D'accord. Voilà.
On a réparti, puisqu'on a quand même pas mal de monde à l'école maternelle, donc on est arrivé à répartir ça sur d'autres personnes.
D'accord. en complément d'information, c'était quoi son activité antérieure à la nucléaire?
Elle procédait au remplacement des ATSEM qui étaient absentes au sein de l'école maternelle.
Et elle faisait du ménage.
Elle positionnait sur du ménage.
Et elle faisait beaucoup de remplacements d'ATSEM. C'est pour ça que les deux directeurs, et surtout M. Trousselier, nous a un petit peu expliqué qu'elle était vraiment en adéquation avec le poste qu'elle allait prendre, parce qu'elle était déjà habituée à faire ce poste et qu'elle était très appréciée par les enfants, ainsi que par les professeurs d'école qui travaillaient. Donc, du coup,
ça, c'est un bon argument, parce que effectivement, déplacer les gens, c'est intéressant pour une économie budgétaire, mais il faut aussi que les compétences soient au rendez-vous. Et dans ce cas-là, si elle a déjà exercé dans ce type d'activité.
C'est pour ça que sur les trois candidatures, c'est peut-être qu'elle est sortie, parce qu'elle avait déjà une expérience en tant que remplaçante d'accès. D'autres questions?
Oui, du coup, dans la formulation, on n'est pas dans un recrutement, mais on est vraiment dans un changement de fonction d'un agent qui était déjà...
sur un poste.
Sur un poste de titulaire.
Tout à fait. On a modifié son poste d'adjoint technique. On l'a modifié en poste adjoint technique à 80%, elle est passée à 100% équivalent temps.
Et donc, le coût à la fois de ce 20% supérieur et du changement de fonction pour en salariat, vous l'avez à peu près?
Là, je ne peux pas vous donner, là, ce soir. On l'a, bien sûr qu'on l'a, mais là, je ne peux pas, ce soir. Je ne suis pas capable de vous le dire. Donc, si vous voulez, on vous le fera passer. Hein. Sur deux supports nouveaux. Donc nous avons un rédacteur principal qui était seconde classe, qui va passer première classe, et nous avons un support d'adjoint territorial du patrimoine qui va devenir adjoint territorial du patrimoine principal, deuxième classe. Et pour rester à effectif constant, comme je vous l'ai dit, nous avons supprimé les deux anciens supports et nous avons créé ces deux supports-là, deux postes donc, dans le nouvel effectif.
Une question, si c'est un avancement de grade, il n'y a pas nécessité de supprimer le support?
Nécessité de supprimer les supports
en avancement de grade?
Si. En fait, il n'y a pas de nécessité. Vous pouvez toujours les avoir au tableau des effectifs, ils peuvent toujours apparaître, mais cependant, comme l'a indiqué Madame la maire, pour rester à effectif constant, c'est juste on crée un nouveau support et l'ancien support, on le supprime.
De toute façon, il n'y a personne qui va aller dessus. On n'a personne qui va aller dessus, donc ça ne sert à rien de laisser deux postes, un poste de rédacteur principal et un poste d'adjoint territorial du patrimoine sur des postes vides, puisqu'il n'y aura personne.
Tout à fait, ce sera des postes vides qui ne vont pas impacter le budget parce qu'ils seront à zéro, mais cependant, ces supports existeront.
Et donc, même question que pour le point 5, le coût de ce changement de support.
Je voulais juste répondre en disant que quand on avait fait le budget, on a tenu compte de ces éléments-là. Donc on avait tenu compte de l'embauche d'une ATSEM sur une partie de la fin de l'année, et effectivement, parce que Claudine nous les avait donnés, et donc on les avait intégrés dans le budget salarial de l'année 2021.
Donc nous avons pour l'une une augmentation de 60,92 €. Et pour brut, bien entendu, et pour la seconde, 3,94 €.
Alors, comme d'habitude, en septembre, c'est le vote de la liste du personnel enseignant qui participe aux heures d'études surveillées. Donc, vous verrez que par rapport à septembre de l'année dernière, il y a eu des modifications, que ce soit à l'école maternelle, notamment avec l'arrivée de Mme Peter Marigord, mais également des modifications au niveau de l'école primaire. Donc, c'est juste une validation de cette liste des enseignants au sein des écoles qui participent aux heures d'études surveillées, qui, je le rappelle, sont de 16h30 à 17h30 après l'enseignement à l'école. Sur l'article 3, quant à la rémunération, elle n'a pas été modifiée. Le bulletin officiel de l'éducation nationale fait toujours mention des mêmes taux.
J'avais juste une question relativement à l'école primaire. On a un site enseignant qui accepte de faire des études surveillées. Comment ça se passe pour les autres classes qui sont pas couvertes?
C'est le personnel communal.
D'accord. Et ça aujourd'hui, vous avez du personnel communal qui assure les garderies pour les deux classes qui ne sont pas.
Qui assure les études.
Qui assure les études. Ces gens-là sont payés sur le même tarif. Comment ça se passe?
Non, ça rentre dans leur service, dans leur obligation de service.
D'accord. Ça ne correspond pas pour eux à des heures supplémentaires comme les enseignants. Non.
Une question sur le petit tableau de l'article 3, ça sort du BO, la dénomination instituteur, comme futur professeur des écoles.
Oui, c'est le BO. Okay.
Instituteur, ça fait un moment.
Et comme il y a encore des gens qui sont sur ces grilles-là, je pense que le BE fait en sorte voilà, jusqu'à la dernière personne instituée.
D'autres questions? On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. D'achat.
Merci Madame la Maire. Donc en effet, il s'agit du groupement d'achat quincaillerie, épicerie et Chem. Et c'est de permettre et de donner l'autorisation à Madame la Maire de signer et d'adhérer à un groupement d'achat qui est porté par la ville de Montpellier sur donc, l'objet de l'achat de la quincaillerie, de la épicerie de l'échelle. Comme c'est Monsieur Capot et la Commission Finances se sont engagés dans la réduction de tout ce qui est fonctionnement, on travaille et on essaye de travailler à adhérer à un maximum de mouvements d'achat qui est une pertinence évidemment pour notre collectivité. Alors pour notre collectivité, elle a une pertinence notamment pour tout ce qui est achat d'échelle, parce que tout ce qui est échelle représente un coût quand même assez important. Et bien évidemment, si on peut tirer les prix vers le bas au niveau des prestataires, ça peut être toujours intéressant. On est plus fort à plusieurs étant seul dans son coin à acheter. Voilà, c'est pour permettre d'intégrer à ce mouvement d'achat. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de collectivités qui vont aider. Merci.
Je vous en prie. Juste une question de compréhension. Comment ça fonctionne? C'est un droit de tirage à hauteur de 15 niveaux ou comment...
Pas du tout. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Voilà. C'est juste une évaluation de nos besoins, en gros, sur plusieurs années. Et après, dès qu'on adhère, il n'y a même pas d'obligation d'achat. Voilà.
Okay. Et c'est une provision pour les achats ou c'est facturé à...
Non, vraiment, les 15 000 euros là, qui sont indiqués, c'était notre besoin. Mais encore une fois, ce n'est qu'une évaluation, ce n'est qu'un prévisionnel. Il n'y a pas d'obligation d'achat jusqu'à concurrence de 15 000 euros, où il n'y a pas d'obligation d'achat sur une année de montant de 15 000 euros. On peut consommer 100, on peut consommer 0, voilà.
Après, c'est sur présentation de facture, bien entendu.
Et vous parliez d'économie d'échelle, on est à combien actuellement, à peu près, vous avez regardé
sur. Bah, pour l'instant, voilà, le marché n'est pas lancé, n'est pas notifié, donc on pourra le savoir à partir du moment où on aura les prix unitaires du marché, et on pourra faire une comparaison avec ce qu'on a acheté, le prix actuel d'achat, et le prix futur d'achat, où là on aura les prix unitaires. Et on pourra faire une comparaison égale et dire voilà, sur ces produits-là, on a gagné tant ou pas.
Donc on est actuellement à environ 15 000 euros sur ce
c'est le prévisionnel. Achat, c'est le prévisionnel qu'on a regardé.
D'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Neuvième point. Ce sont les tarifs pour Octobre Rose qui commence donc samedi et Trincolaise qui la manifestation de samedi soir. Donc pour ces deux manifestations, pour Trincolaise d'abord samedi soir, nous avons besoin de vendre des verres à l'entrée de cette manifestation pour pouvoir aller goûter les vins de ces trois vigneronnes. Donc nous les avons commandés. Bruno, je peux te laisser la parole si tu veux. Vous
expliquez les verres. Mais on a commandé avec Lily des verres à, comment ça s'appelle, à Saporta, parce qu'on n'a pas pu avoir les verres à sérigraphie, hein, c'est pris trop tard. Ouais, on a commandé 600 verres. Hein, et puis, il y a les vendre.
Pour l'année prochaine, on va s'arranger à avoir des verres si Trincolaise marche bien. Si c'est un succès, ce que je le souhaite du cœur. L'année prochaine, on commandera des verres avec la. On mettra une sérigraphie dessus. On mettra le logo de Trincolaise pour que justement ce soit.
Et on avait des gens qui voulaient nous le faire, mais qui étaient trop chers.
Et comme là, on a décidé cette manifestation assez rapidement, on n'avait plus d'entreprise capable de nous fournir rapidement et pas cher. Donc du coup, on a décidé de passer par le mas de Saporta qui nous faisait des prix sur les verres et l'année prochaine, prendre l'année tranquillement pour pouvoir discuter avec d'autres entreprises et avoir des verres adéquats pour le Trincolaise numéro 2 l'année prochaine. Voilà, donc pour ces verres, nous avons pensé à un prix de 3 euros le verre. Donc on arrive à Trincolaise, on achète son verre et ensuite on va, puisque comme vous le savez, je vais vous le donner dans le point d'information, mais je vais vous le donner tout de suite. Donc ce Trincolaise, ça va être donc, sur la place des Grèzes. Vous aurez des food trucks pour pouvoir manger. Vous aurez donc trois vigneronnes qui présenteront leur vin. Et vous aurez une petite piste de danse avec de la musique. Ça va durer de 18h à 23h, à peu près. Voilà, et bien sûr, ça sera. Nous aurons des vigiles. Donc nous aurons deux personnes qui contrôleront le pass sanitaire à l'entrée de l'événement. Et nous aurons deux vigiles avec chien. C'est bien ça?
Non, il n'y a pas le chien.
Non, deux vigiles qui tourneront autour de l'événement. Je dis avec chien parce qu'à la bodega, on a deux vigiles avec chien. Donc j'ai rencontré d'ailleurs cet après-midi le lieutenant de la brigade de Clapier et Japou. M'a demandé de demander aux gens de ne pas trop boire. Madame le maire, s'il vous plaît, si vous pouviez demander aux gens de rester raisonnables.
Madame le maire, justement, dans cet ordre d'idées, je l'ai vu dans certaines manifestations, ce serait pas souhaitable de distribuer des alcotests.
Des éthylotests.
Des éthylotests, oui. C'est peut-être prudent parfois.
Oui. On n'a pas pensé aux éthylotests. Oui.
J'ai pas passé non plus, j'ai pas
là. C'est la première, hein, c'est la première. Donc,
on va voir comment ça se passe. Ouais. On a décidé que 23h serait quand même voilà, oui. L'heure limite.
Hein, en principe, autour du vin, c'est pas la beuverie. Quoi.
Oui, c'est ça, c'est pas.
Il y a des tables pour manger, ça sera plutôt bien, ça cool.
Ça sera plutôt, voilà. J'espère vous faire rire trop, vous faire rire hein, mais bon. Donc voilà, c'est une animation et j'espère bien que les gens seront quand même raisonnables parce que ceux qui reprennent la route vont. Voilà, donc on verra. Donc on vous propose le tarif de 3 euros pour le verre. Pour Octobre Rose, nous avons donc des parapluies. Pardon.
Juste avant de passer à l'Octobre Rose, à Saporta, vous les avez eu à combien de verres? Vous en avez pris
On en a pris 600, ce sont des verres Yanao dédiés à la dégustation des vins. Et on en a pris 600 pour la première année, puisqu'il faut qu'on voit quand même l'affluence qu'il y aura. Et en fonction de ça, on aura un étalon pour commander des verres supplémentaires ou pas pour l'année prochaine. Sérigraphié.
Et le coût unitaire
Bien, 2 euros et quelques
ça. C'est arrivé en mairie, j'avoue, j'ai plus le prix en tête.
2 euros et quelques de Pour Octobre Rose, donc, cette manifestation, peut-être qu'on va laisser parler Michel Boyer ou Valérie Combert. Donc, Octobre Rose, les parapluies.
Alors, les parapluies roses, on a été amené d'ailleurs à en parler en commission. Donc, effectivement, ces parapluies donc, seront à la vente à partir de samedi. Puisqu'ils nous ont été dotés par l'Institut du cancer de Montpellier. Et comment dirais-je, nous sommes amenés donc à effectivement les vendre sur le marché pendant tout le mois d'octobre, c'est-à-dire jusqu'au 22 inclus, au prix unitaire de 10 euros, en sachant que le coût, enfin le prix pardon, de ce parapluie et tout ce qui sera encaissé par, au travers de la vente de ces parapluies sera intégralement reversé à l'ICM dans le cadre d'achat de matériel. Essentiellement lié effectivement à la recherche en matière de cancer.
Merci. Donc, du coup, on met les parapluies roses à 10 euros, puisque c'est ce qui se fait partout à Montpellier, puisque Montpellier fait Octobre Rose aussi avec la vente de ses parapluies. Et donc, le prix est de 10 euros. Du coup, c'est pour ça que je vous propose les verres pour Trincolaise à 3 euros et les parapluies à 10 euros.
Il n'y a pas d'inflation sur les parapluies.
De toute façon, tout ce qu'on va récupérer des parapluies va retourner à la
cancer. Sachant qu'on n'a rien payé.
Voilà, c'est ça, il faut préciser.
Ce qu'on vend, on l'encaisse, on le reverse, et les parapluies restants, on les leur restitue. Donc, ça ne fait que transiter par nous.
Tout à fait. C'est une action pour l'Institut du cancer.
Merci.
Avez-vous des questions à poser?
Oui. J'aurais une question. Le coût global de chacune de ces manifestations, merci.
Trincolaise, environ 4 000 euros et Octobre Rose, environ 4 000 euros aussi.
Oui, 4 000, 4 500.
Sachant qu'Octobre Rose va faire du 2 au 22, donc ça va couvrir le mois et qu'on va avoir des animations
des activités
sur tous les week-ends du mois.
On va passer au vote donc pour le verre de Trincolaise à 3 euros et le parapluie rose à 10 euros. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors après, nous arrivons au versement d'un don à l'ICM, donc à l'Institut du cancer. Donc suite à cette manifestation qui va durer 3 semaines pleines, suite à l'aide que nous a apportée l'Institut du cancer pour mettre en place cette manifestation, ils nous ont beaucoup épaulés et le groupe qui a travaillé sur Octobre Rose en est le témoin. J'ai pensé qu'on pourrait, en tant que mairie mettant en place cette manifestation, on pourrait faire un don à l'Institut du cancer. Aujourd'hui, le cancer du sein, c'est un cancer qui est quand même... on le rencontre très souvent, il se guérit bien souvent, mais de temps en temps, il y a des cas dramatiques. Et ce cancer du sein, il est si bien soigné grâce à tout ce qui, à toute la recherche et à tout le matériel qui est nécessaire pour avancer. Donc je pensais qu'il serait bon de pouvoir faire un don à l'Institut du cancer. Ce soir, je vous propose de faire ce don de 1 500 euros et voilà, la discussion est ouverte. Vous en avez déjà parlé en commission, hein, je crois. Ça a été une discussion qui a été soulevée en commission. Donc, on va avoir les retours. J'ai eu déjà les retours de la commission et ce soir, donc, on va pouvoir en discuter. Avant de vous donner la parole, Monsieur Boyer.
Oui, simplement, je voulais effectivement confirmer qu'il y a eu un échange. Céline Goulin était là, notamment Michel Corrélie, enfin tous ceux qui font partie de la commission, tout simplement, à ce sujet-là.
en sachant que, encore une fois, il s'agit simplement que d'un retour à l'ICM, dans le cadre, comment dirais-je, de beaucoup de choses que nous ne payons pas, et qu'ils nous fournissent en termes de communication pour non seulement le stand qui va être tenu donc samedi matin, mais également pour tout un tas d'autres manifestations qui vont se dérouler jusqu'à la soirée du vendredi 22 octobre prochain.
Soirée voilà. Autour d'une conférence.
Autour d'une conférence, il y aura une table ronde avec des témoignages. Alors, on est en train d'y travailler. Vous verrez, on n'a pas encore tout à fait fini. Je pense qu'on aura sûrement encore une réunion de commission pour, ne serait-ce que pour préciser les choses sur tout ce qui va se passer. Et donc l'idée, c'est simplement, effectivement, d'avoir quelque part un retour positif à des gens qui nous aident sans nous demander finalement quoi que ce soit en retour, hormis de faire effectivement cette action de, vis-à-vis de la prévention et du dépistage du cancer du sein. Je voulais aussi préciser, c'est important, que c'est bien une action locale et que ce don n'est destiné qu'à des achats de matériel, je dirais, ou pour aider à la recherche appliquée de manière locale. Il ne s'agit pas de verser à quelque chose qui va être noyé au niveau national, ou même départemental, ou même régional. Non, on est bien par rapport à un partenariat local.
C'est à cette condition que nous sommes d'accord pour que soit votée cette subvention accordée à cette école. Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui ne l'ai pas fait.
Ce qui fait, oui, ça va. Donc je disais, je reprends, c'est à ces conditions-là que nous avons accepté qu'on verse effectivement cette subvention et qu'on votera pour. Contrairement à ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous soutenons contre l'attribution de ce type de subvention, notamment dernièrement au Liban et à plusieurs reprises successives pour le Téléthon. Le problème du Téléthon, je suis sûr, va se proposer dans deux mois. J'avais proposé à un moment donné qu'on y réfléchisse parce qu'il est pour nous impensable de se dire que sous le coup de l'émotion, on vote des subventions pour toutes les ONG, toutes les œuvres humanitaires du monde entier. Il faut bien qu'à un moment donné, on détermine des règles. C'est de l'argent public, donc on peut pas, l'émotion ne suffit pas à justifier cette dépense d'argent public. J'avais proposé en commission que l'on fasse du coup qu'on se réunisse pour essayer de déterminer quelles sont les règles d'attribution de ce type de subvention. On n'a pas avancé là-dessus, mais j'avais dit en commission, je suis dans quelle commission, que je ferais moi une demande du coup à l'ensemble du conseil municipal pour d'ici le Téléthon prochain, qu'on se réunisse et qu'on détermine quelles sont les règles d'attribution de subventions à des œuvres de ce type. Voilà, donc je le fais là officiellement ce soir. Je peux appuyer ça de mail que j'envoie à tout le monde pour expliquer nos raisons, mais ce serait bien que dans les deux mois qui viennent, avant que se repose le problème du Téléthon, puisque je suis sûr qu'à tous les coups ça va se reposer, on ait défini des règles d'attribution de ce type de subvention.
Michel, c'est pas des subventions, c'est des dons. Faut pas confondre des subventions,
des dons. On est d'accord, des dons. Oui. On est d'accord, des dons.
L'an dernier, le 23 septembre 2020, nous avions voté effectivement un don de 1 000 euros pour le Liban. Vaste sujet, c'est bien que le Liban, c'est un drame aujourd'hui. Mais nous avions voté contre et nous nous étions expliqués sur ce vote contre, à savoir que nous souhaitions, et nous souhaitons toujours d'ailleurs, une réflexion préalable et une décision après discussion
soit mise en place à propos de ces dons. Donc, on conforte ce qui vient d'être dit. On espère que cela va se traduire de façon officielle maintenant, puisque ça fait un an, hein. Je vous rappelle, le 24 septembre 2020, presque un an, une semaine aujourd'hui. Pour ce qui est du don, bien sûr, à l'ICN, les choses sont différentes, comme M. Boyer l'a précisé. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus local. Et bien sûr, nous voterons pour cette subvention.
Écoutez, je vous remercie pour l'ICN, parce que je pense que c'est un geste important que fait la commune de Montpellier. Et un grand merci pour l'ICN. Donc, nous allons passer au vote quand même. Donc, qui est contre ? Il s'abstient, adopté à l'unanimité pour le versement d'un don à l'ICN de 1500 euros. Nous avons fini l'ordre du jour. Il est prévu quelques informations. Donc je vais vous donner quelques informations rapidement, mais comme vous faites partie de beaucoup de commissions, vous êtes, je pense, au courant de beaucoup de choses. Donc dans ces informations, il y avait le fameux terrain au bord du Gaise sur lequel nous avions demandé une préemption. Donc le propriétaire n'est plus du tout vendeur. Donc à partir du moment où le propriétaire n'est plus vendeur, la préemption tombe et donc le terrain reste au propriétaire et continue d'exister tel qu'il est aujourd'hui. Donc nous n'avons plus de velléité sur les terrains du bord du Gaise.
On en a parlé en commission d'urbanisme de cette histoire, parce que j'ai posé la question, je pense savoir où ça en était. C'est cette réponse qui m'a été faite. Puis j'ai eu vent de bruit disant que ce terrain avait quand même un acquéreur. Je me suis donc renseigné. Il se trouve que nous sommes dans le cadre d'une vente privée. Donc si la mairie a un acquéreur, si le vendeur a un acquéreur, la mairie n'a qu'une solution, à moins d'avoir de faire une déclaration d'utilité publique, elle n'a qu'une solution, c'est de se ranger au prix du vendeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher, contrairement à ce qu'on s'était dit en commission d'urbanisme, on ne peut pas empêcher la vente de ce terrain, sauf à avoir une déclaration d'utilité publique, parce qu'on a quelque chose d'intérêt général à faire sur ce terrain. Ce qui veut dire que le vendeur, il paraît qu'il y aurait un prix à 115 000 euros. Hein. Nous avons proposé beaucoup moins, le prix fixé par le domaine, je crois. Si le vendeur a un acheteur à 115 000 euros, à moins que la mairie se porte acquéreur à 115 000 euros, nous ne pouvons pas empêcher la vente.
Donc le terrain partira à 115 000 euros. Ce qui, on va voir ce que vont faire les propriétaires de la glacière, quand même, puisqu'ils étaient là au dernier conseil municipal, vent debout contre le rachat par la mairie de ce terrain. Donc, si là, le propriétaire vend 115 000 euros à un privé, je suppose qu'ils vont quand même monter au créneau. Parce qu'ils sont montés au créneau contre la mairie, j'espère qu'ils vont monter au créneau contre le privé qui va racheter 115 000 euros à un prix exorbitant.
On est d'accord, mais ça veut dire.
Et que va faire ce privé sur ce terrain?
Donc ça veut dire que la mairie, pour l'instant, n'a pas eu vent d'une vente et donc n'a pas eu besoin de faire acte de préemption.
Aujourd'hui, non.
D'accord.
Je suis très étonnée. Vous n'êtes pas au courant, monsieur Bon, de cette vente de terrain?
Non, je ne suis pas au courant. J'ai eu des rumeurs qui ont couru, mais je ne peux pas dire plus que ce que M. Bourrier vient de dire aujourd'hui.
Je pense qu'on aurait vu passer une DIA s'il y avait une vente.
Oui, c'est ça.
Monsieur.
Ouais. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il faut attendre pour voir s'il y a une DIA ou pas. Que ça paraît aberrant que quelqu'un puisse acheter à ce prix-là. Enfin...
D'accord.
Bon, on va voir. De toute façon, on n'a qu'à attendre hein, maintenant. Hein. Donc, on va attendre, on va voir. Et puis. Quand on aura la DIA, peut-être qu'en commission d'urbanisme, vous réfléchirez de savoir si on se positionne ou pas, mais si on doit se positionner à 115 000 euros, là je ne suis plus d'accord. Hein. Donc je pense que ça partira pour un prix. Qui ne pourra rien faire d'ailleurs, qui ne pourra rien faire sur ce terrain, puisqu'il est inondable, c'est Natura 2000, il pourra faire peut-être une petite cabane.
Oui, je voulais juste ajouter à l'ordre de l'intervention de la part du secrétaire général. Est-ce qu'il est possible, si on juge que le prix est exorbitant, déposer action en justice pour contester le prix, pour y avoir entente entre vendeur et acheteur, pour pousser la mairie dans un retranchement non autorisé, enfin, non valide, quoi. Donc, je vais juste avoir cette approche.
Oui, je vous
laisse.
Alors, bien évidemment, compte tenu de la nature de ce terrain et de son emplacement, nous sommes en lien avec le conseil départemental de l'Hérault, notamment un conseiller patrimoine qui nous conseille, qui nous appuie sur toute la procédure à mettre en œuvre et en place. Donc, inutile de vous dire qu'on est très bien conseillé et que, bien évidemment, si ça avait été encore de manière continue, si le vendeur aurait souhaité vendre, on aurait saisi le juge qui aurait fixé lui-même un prix. Voilà.
Donc voilà pour le terrain sur le Lez. Ensuite, les travaux de la route de Mante, donc l'aménagement du carrefour au niveau de la tannerie. Hein, donc nous sommes partis pour 9 semaines de travaux. Mais ça se passe bien, M. Jeanne.
Oui, ça se passe bien. Il y a pas de... Vous avez pu observer on a coupé. J'avais tenu tout le monde informé. Il y a eu 3 platanes qui ont été coupées. C'était nécessaire. Il s'agissait de pouvoir dégager la vue du quai bus qui en fait est maintenant ancré au pied de ces platanes. Au niveau, c'est, l'objectif est de finir le 22 octobre. Lundi, j'ai participé à la réunion de chantier. Pour le moment, on n'a pas observé de retard malgré la pluie. Donc, ils ont un rendement plus élevé que ce qu'ils avaient prévu. Donc, de ce côté-là, pour le moment, pas d'inquiétude. Il y aura probablement 2 nuits, notamment en fin de parcours, il y aura 2 nuits où ils vont travailler de manière à pouvoir... parce qu'ils sont obligés de couper la route, ces 2 nuits. Donc, ils veulent le faire le plus discrètement possible. Donc, ces 2 nuits, c'est pratiquement les 2 dernières nuits. Ça sera aux environs du 21 octobre, donc juste avant la livraison. Voilà, plateau traversant, donc je résume, un plateau traversant de manière à desservir le chemin du Roularel, hein, et 2 quibus, un de chaque côté du plateau et un de chaque côté de la chaussée. Et c'est la société Colas qui a le marché, et le maître d'ouvrage, c'est la métropole. Voilà.
Juste, je vais redire ce que j'ai dit en commission de travaux, parce que quand on a discuté de ce dossier-là, j'avais suggéré qu'on puisse continuer l'usage du fossé qui est le long de la Tannon, de façon à permettre aux piétons, soit qui arrivent sur ce bus, soit aux piétons qui transitent, le temps que la bicyclette soit faite, qu'ils soient un peu protégés sur ce passage-là, qui est particulièrement étroit en voirie. Même si le fait qu'il va y avoir le plateau, a priori, les voitures devraient ralentir, mais. Enfin, c'est pas. On a vu donc, M. Pic, lundi, qui a l'air de proposer cette solution-là, en disant qu'il ne faut pas grand intérêt. Quelle est la position de la municipalité? C'est sûr, certes, ce sont des travaux provisoires, hein, en attendant un aménagement dans un certain nombre d'années d'un flux piéton aménagé. Moi, il me semble qu'en termes de protection sur ce passage-là, qui est très compliqué quand on est piéton, ça pourrait être un avantage.
Le départ du quai bus est séduisant, mais après, dans le virage, la façade de la tannerie qui est très proche de la chaussée, donc on serait obligé de gagner 1,40 m minimum sur la chaussée, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça, c'est ce qui justifie la position de M. Pic par rapport à cette idée, qui a priori c'était assez séduisant, comme je l'ai dit, hein, mais bon.
Je suis d'accord, mais aujourd'hui les piétons, moi je l'ai fait encore dernièrement,
ouais.
Les piétons, on est sur la route. Aujourd'hui, entre 70 cm d'usée et derrière les platanes, ou être sur la route, ben, C'est quand même pas la même sécurité pour le transit.
À ce moment-là, il vaut mieux buser l'autre côté qui est beaucoup plus large. Ça, là, c'est les piétons qui pourront. Mais là, la partie dont tu parles, ça paraît très très difficile.
Je sais bien, mais de l'autre côté, on a d'autres. Ça implique d'autres travaux. Je ne sais pas, moi j'en sais rien. C'était une proposition que j'avais faite pour essayer de. Pendant cette période transitoire, avant qu'on arrive à avoir une piste cyclable, un piéton protégé et cyclable protégé sur cette route de Mans, ça va encore demander un avenir certain temps. C'est un moyen d'avoir au moins sur ce passage-là.
Enfin, il t'a répondu, hein, comme
ah, lui, il a répondu, mais la commune n'est pas obligée d'être de son avis. On a en face de nous un technicien de métropole, il nous dit que lui, il ne le ferait pas, mais on peut décider autrement.
Que tout le monde aille voir comment c'est, hein, comment on peut passer disons un cheminement piéton sur le fossé à cet endroit-là. Voilà, et on en parlera.
Oui, j'interviens sur ce point également. Il est évident que les piétons qui vont se rendre à cet arrêt de bus, notamment le long de la rue de la Calèche,